Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Prolongation de la trêve humanitaire pour 15 jours dans l'est de la RDC. Isaac Kibira, notable de Bwito dans le Nord Kivu, plaide pour la cessation durable des hostilités. Il s'adresse ainsi au gouvernement congolais et aux États-Unis d'Amérique. Le gouverneur de l'Ituri réitère la détermination de l'armée à poursuivre tous les miliciens réfractaires au processus de paix. Dans un point de presse cette semaine à Bunia, le général Johnny Luboya demande aux groupes armés de cesser toute violation des droits de l'homme contre la population dans les régions minières. Et puis, des innocents brûlés vifs, des militaires des FARDC tués par la population à cause des fausses rumeurs et de la désinformation. Cela se passe dans le Grand Nord Kivu. Comment lutter contre ces fléaux qui constituent un cancer pour la paix et la démocratie? Réponse avec notre invité, Jean-Toby Okala, responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO à Beni, Butembo et Lubero. Madame, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, un notable de la chefferie de Bwito dans le territoire de Rutshuru plaide en faveur de la cessation durable des hostilités. Isaac Kibira, c'est de lui qu'il s'agit, est fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambou. Il est en déplacement depuis plus d'une année à Goma et réagit ainsi à l'annonce faite mercredi de prolonger la trêve humanitaire pour 15 jours. Il demande au gouvernement congolais et au Conseil national de sécurité des États-Unis d'Amérique de mettre définitivement fin au combat opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 RDF par la voie politique et diplomatique, cela pour permettre la reprise sans entrave des actions humanitaires et le retour des populations déplacées. Isaac Kibira, joint par Bernard Nyangi.
Depuis que la guerre a commencé, si du moins de telles trêves avaient été décrétées avant qu'une grande masse de la population puisse fuir et perdre leurs biens et perdre aussi la vie, en tout cas ça serait mieux. Alors aujourd'hui, nous encourageons l'initiative des États-Unis d'Amérique qui demande qu'il y ait encore une prolongation de 15 jours afin que les humanitaires puissent atteindre les déplacés et les retournés qui sont ça et là dans les différentes lignes de front et les endroits qui sont touchés par les guerres. Alors, nous demandons aux États-Unis de continuer avec cette initiative afin que la guerre puisse en tout cas être arrêtée. Celui qui n'a jamais fui peut dire non que la guerre continue pendant que les jamais les villages tombent entre les mains des M23 RDF. Si vous allez dans le Bwito, à Katsiru, vous allez à Chichanga, vous allez à Tongo, vous allez à Bambu, vous allez à Kanyabayonga, vous allez à Chirumba, vous allez à Mutanda, les gens souffrent. En tout cas, nous demandons que la guerre puisse trouver une solution définitive et donner la chance au retour de la paix dans la région des Grands Lacs.
Rappelons que la prolongation de cette trêve est en vigueur jusqu'au 3 août 2024 à 23h59. Et au lendemain de l'annonce de la prorogation de la trêve humanitaire, quel bilan dressé de la première trêve de 15 jours décrétée par les États-Unis dans les affrontements entre les FARDC et le M23 soutenu par le Rwanda? Parmi les points qu'on peut qualifier de plus ou moins positifs, la trêve humanitaire a permis une stabilité apparente. Cependant, parmi les points négatifs, cette trêve a permis aux belligérants de se réorganiser militairement. Bien plus, les groupes armés semblent ne pas être concernés par la dite trêve. C'est ce que pense le professeur Augustin Mouessi, enseignant des sciences politiques à l'université de Goma et chercheur à un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Il intervenait hier dans l'émission Dialogue entre Congolais animée par Kéline Kouté, émission qui portait sur la prolongation de la trêve humanitaire. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rongmouchinge.
On a eu l'impression qu'il y a eu une certaine stabilité au niveau des fronts, même s'il faut remarquer qu'à Bweremana, il y a eu tuerie des personnes et il y a eu aussi des accrochages entre la rébellion du M23 et les groupes qui soutiennent les FARDC, les différents groupes armés à Kirumba et ailleurs. Et aussi, cette trêve a permis aux différents belligérants d'essayer de se réarmer, de s'organiser aussi militairement, quoi. Puisque il faut dire qu'avant la trêve, il y avait une avancée spectaculaire de la rébellion. Voilà un peu en termes des résultats que cette trêve a permis d'atteindre. Mais en ce qui concerne les faiblesses, c'est que cette trêve n'a pas permis aux acteurs humanitaires de mener leurs actions pour plusieurs raisons, parce que il y a eu toujours des accrochages qui ont continué. Et puis une autre faiblesse de cette trêve, c'est que les groupes armés semblent ne pas être concernés par justement cette trêve. Ils ont continué à opérer, n'est-ce pas?
Direction l'Ituri. Le gouverneur demande aux groupes armés de cesser toute violation des droits de l'homme contre la population dans les régions minières, ce conformément aux différents actes d'engagement signés par leurs leaders. Cela en attendant l'effectivité du programme de désarmement et démobilisation PDDRCS, il a dit au cours d'un point de presse mercredi à Bunia. Le général Johnny Louboya réitère la détermination de l'armée à poursuivre tous les miliciens réfractaires au processus de paix vers Mongwalou. Il est au micro de Isaac Remoyope.
Ces hommes-là, maintenant, ils n'ont pas d'autre issue, ils n'ont pas malheureusement aussi d'alternative. Parce que nous n'avons pas proposé des activités valorisantes, étant donné que le PDDRCS ne fonctionne pas. Et donc, il y a beaucoup de mines à Lodjo, à Pluto et tout. Ils sont en train maintenant de se disputer qui veut prendre 2 ou 3 mines ici pour, n'est-ce pas, peut-être subvenir à leurs besoins. Nous leur disons, ils peuvent rester dans les mines, mais sans armes, même en attendant le PDDRCS. Mais s'ils sont en train de s'attaquer aux populations, nous avons, n'est-ce pas, une très bonne planification. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à l'ICI. Nous allons les suivre partout où ils sont et nous serons obligés d'utiliser l'approche militaire, d'ailleurs que nous avons déjà commencé par ailleurs. S'ils persistent, nous aussi nous allons persister et nous allons encore engager plus d'hommes. Donc là, vraiment, c'est une opportunité pour parler à ces frères-là pour qu'effectivement, ils s'arrêtent.
Province du Haut-Katanga, plusieurs groupes des présumés bandits ont été présentés hier à Lubumbashi au vice-gouverneur de province par le commissaire provincial de la police. Pour le commissaire divisionnaire, ces hommes ont longtemps sémé la terreur et endeuillé plusieurs familles dans l'espace Grand Katanga. Au moment de leur arrestation, certains ont réussi à fuir avec des armes à feu. Le vice-gouverneur, qui félicite la police pour ce joli coup de filet, demande qu'il soit déféré devant la justice afin que chacun réponde de ses actes.
Le premier comprend deux hommes qualifiés par la police des bandits de grand chemin. Ils font partie de la clique du célèbre Kabengele, toujours recherchés par les services de sécurité. À leur actif, de nombreuses tueries, dont celle d'un agent de l'Agence nationale des renseignements, lors de leur évasion du cachot de ses services d'intelligence en 2021. Arrêtés pour la seconde fois et conduits au cachot de la 22e région militaire, ils se sont fait la belle. Le deuxième groupe, accusé par la police d'avoir commis de nombreux cas de meurtre, dont celui d'un élu de Kalemi dans la province du Tanganyika. Le troisième a pour spécialité le vol des véhicules. À en croire la police, ces hommes ont reconnu avoir déjà volé 25 véhicules. Ils opèrent dans les 3 principales villes du Haut-Katanga, à savoir Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Tous ces présumés bandits ont été arrêtés dans les sites miniers, les uns dans le Haut-Katanga et les autres dans le Lualaba. Pour la police, certains d'entre eux opèrent par moments en Zambie voisine. Le quatrième groupe est constitué des jeunes du quartier Matipicha à Lubumbashi. Ils opèrent avec les armes blanches et sont plus actifs dans certains quartiers des communes de Lubumbashi et de Katuba. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Capi.
Dans la province du Bazouélé, des hommes armés considérés comme des éléments de la Seleka, les rebelles centrafricains ont tendu une embuscade mercredi dans la localité Bangata, chefferie Banda, territoire d'Ango. Nous sommes à plus de 500 km au nord de Kisangani. Ils ont rançonné les passants avant de se retirer dans la brousse. Une de leurs victimes raconte sa mésaventure après les avoir rencontrés. Ses propos ont été recueillis par Jacques Moukonkolé.
Je suis tombé dans l'embuscade au-delà de Hangar, à 10 km d'une localité qu'on appelle Bangata. C'est là que les Seleka sont sortis. Ils nous ont dépouillé de tout. Ils ont endommagé la moto. Heureusement, j'ai gardé le téléphone. Je reviens avec ma fille d'un centre pour le traitement traditionnel. On m'a tout pris. Je ne sais quoi faire. Pour le moment, je suis à Hangar, à partir d'où j'ai fait cet audio. Je suis vraiment bloqué. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Le peu d'argent que j'avais, les Seleka ont tout pris. Ils ont trouvé fouet les chambres à air de ma moto, ils ont bastonné sérieusement un jeune enfant d'environ 14 ans après l'avoir ligoté. C'est une chance pour lui comme nous sommes arrivés là, parce qu'on l'a laissé pour récupérer tout ce que nous avions. Je ne sais pas ce qu'aurait dû être son sort si on n'était pas arrivé. Peut-être qu'on pouvait l'amener en brousse pour l'enrôler dans leur groupe, tout comme on pouvait les tuer. Je ne sais pas. Dans cette contrée, nous sommes vraiment dans une grande insécurité. Les hommes en uniforme les ont poursuivis. Je ne sais pas s'ils vont les rattraper.
Notez que dans cette région, en raison du faible effectif des éléments FARDC et de la porosité de la frontière entre la RDC et la Centrafrique, les rebelles centrafricains font régulièrement incursion dans les villages frontaliers où ils rançonnent, pillent et tuent les paisibles populations allègrement. Du côté du Sud Kivu, à Bukavu, des bandits armés ont tiré à bout portant sur un jeune homme d'une trentaine d'années dans la nuit de jeudi à ce vendredi. L'incident est survenu au quartier Ndendere, avenue ICGA, dans la commune d'Ibanda. Les services de sécurité se sont lancés à la recherche des malfrats. L'évolution de la situation avec Jean Kassami.
À part ce jeune homme tué par balle, les bandits ont blessé d'autres personnes qui voulaient venir en rescousse. La police, alertée par la clameur publique, avec en tête le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en province du Sud Kivu, s'est lancée à la poursuite des bandits. Un geste de bravoure qui encourage les chefs de quartier à convoquer ce matin une réunion de sécurité avec ses collaborateurs chefs d'avenir. Mikabo Nyagaza.
Nous dénonçons les comportements scabreux de quatre personnes civiques armées jusqu'aux dents qui ont envahi notre quartier sur trois avenues ISGA, SNEL, Muhunguruzizi. Notre gouvernement provincial a dépêché les policiers, même les ministres de l'Intérieur, qui a travaillé avec toute la population jusque dans les heures tardives. Nous invitons tous les cadres de base à une réunion urgente ce matin pour voir comment nous pouvons mettre la main sur ces gens qui ont vendu leur vertu au mal. Même le gouverneur convoque une réunion par rapport à cette situation sécuritaire pour cette journée.
Les services de sécurité s'accordent à dire que les investigations sont sur la bonne piste. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, en 2024, le taux de la desserte en eau potable en République démocratique du Congo s'élève à 34% et en électricité à 19%. Le gouvernement, par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, s'engage à mettre des moyens pour réussir à doubler ce taux en 5 ans. Déclaration hier jeudi à Kinshasa du ministre des Tutelles lors d'un briefing spécial du gouvernement animé conjointement avec son collègue de la communication et des médias, Teddy Luamba, explique les stratégies du gouvernement dans ses propos recueillis par Alain Rumoshinj.
Aujourd'hui, nous avons une balance déficitaire du secteur de l'électricité, mais nous devons avoir une stratégie agressive. Par exemple, si on doit considérer le fait que nous avons un déficit de pratiquement 2500 MW programmés, nous avons introduit auprès du Conseil des ministres un plan de 9 sites prioritaires que nous pouvons développer et nous donner dans un premier temps 2500 MW. Parce qu'il faut comprendre le fait que le secteur de l'électricité appuie l'économie. Aujourd'hui, le secteur industriel, par exemple le secteur minier, consomme 1400 MW. Et les 1400 MW qui va dans ce secteur, ça permet au secteur industriel de tourner et de générer sur le PIB au moins 35 milliards de dollars, dont nous captons plus ou moins 7 milliards de taxes avec tous les secteurs qui vont avec. Nous pensons aussi par cela aussi autonomiser les sites prioritaires, parce que le secteur de l'eau dépend de l'électricité en général, mais on ne doit pas souffrir d'une interruption d'électricité, par exemple pour une usine de traitement d'eau. Nous avons réfléchi sur le fait qu'il faudra autonomiser les sites prioritaires de production d'eau.
Toutes nos excuses pour la qualité moins bonne de cet élément sonore. Le gouvernement provincial du Kasaï oriental est désormais connu depuis hier jeudi. Il est composé de 10 ministres, dont 2 femmes. Un seul membre de l'ancien gouvernement provincial revient avec les mêmes charges dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Esther Ndalafina nous en parle.
Dans cette équipe gouvernementale, le maire adjoint de Mbujimayi, Patrick Mukendi Makanda, entre au gouvernement provincial comme ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, décentralisation et sécurité. Quelques nouveaux membres font également leur entrée au gouvernement provincial. Il s'agit de Pascal Ilunga qui va s'occuper du ministère provincial de la Justice, Eli Elias Kabuya au ministère provincial de l'Économie et Finances, Gaston Katambayi au ministère provincial des Sports et Loisirs et Charles Kamanga Kanga Senda, conseiller au ministère du Plan en 2014, revient comme le patron de ce ministère. Dr Daniel Kazadi a été nommé ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention. Deux femmes ont été également nommées ministres provinciales. Il s'agit de Berthe Lumbala pour le ministère provincial des Mines, tandis que ingénieur Chantal Moulanga va s'occuper de l'agriculture, environnement, pêche et élevage. Jachin Kalonji, commissaire chargé des infrastructures, transports et travaux publics dans le gouvernement Patrick Mathias Kabeya, revient comme ministre provincial des ITPR. Nico Mwamba est le seul ministre du gouvernement provincial précédent qui a été reconduit avec les mêmes charges au ministère provincial de la Culture. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'étau se resserre sur le président américain Joe Biden à l'isolement après avoir été infecté par le COVID-19. Hier jeudi, des nouveaux appels à se retirer, officiels ou non, ont été lancés au sein du Parti démocrate, notamment par les très influents Barack Obama et Nancy Pelosi.
L'invité.
Nous recevons le responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO à Beni, Butembo et Lubero au Nord Kivu, le Grand Nord Kivu, où des innocents sont brûlés vifs, des militaires des FARDC tués par la population à cause des fausses rumeurs et de la désinformation. Jean-Toby Okala parle des dangers de ce phénomène ainsi que des astuces pour lutter contre ces fléaux qui, selon lui, sont un cancer pour la paix et la démocratie. Il s'entretient avec Martial Papi Mukeba.
Jean-Toby Okala, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi la désinformation?
En termes plus simples, on va dire que la désinformation, c'est la manipulation. C'est l'utilisation des techniques de l'information de masse pour induire une communauté, une personne, des individus tout simplement en erreur. C'est aussi le fait de cacher la vérité ou de travestir les faits. Voilà ce qu'on entend par désinformation. Donc, on veut cacher quelque chose, on veut travestir, c'est-à-dire détourner la réalité des faits parce qu'on a un objectif qu'on veut atteindre.
Pourquoi, depuis quelques mois, la section de communication stratégique et information publique de la MONUSCO multiplie des sensibilisations et formations à la lutte contre la désinformation et les discours de haine?
Ce n'est pas depuis ces dernières semaines ou ces derniers mois. C'est depuis plusieurs années que la MONUSCO a lancé cette bataille, cette caravane, n'est-ce pas, pour sensibiliser les communautés. Alors, pourquoi le faisons-nous? Mais c'est parce qu'il y a des menaces. Il y a des menaces sur tout. Il y a la menace sur l'information, la menace sur la démocratie, la menace sur la sécurité, la menace sur notre planète, qui est notre maison commune. Il y a la menace sur les médias classiques. Les gens ne croient plus à la radio, à la télévision, aux médias classiques. On préfère se fier à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a les menaces sur la paix, menaces sur la cohésion sociale, menaces sur la santé. On est dans une région qui est souvent victime d'épidémies. Je parle d'Ebola, Covid-19 a été une épidémie mondiale. Mais combien de gens ont perdu leur vie ici, dans cette région, pendant l'épidémie d'Ebola, à cause de la désinformation? Il y a des pays comme le Nigeria, où beaucoup d'enfants sont aujourd'hui des infirmes, des millions d'enfants, tout simplement parce que certains leaders communautaires ont fait passer la fausse information selon laquelle, si les parents les amenaient pour se faire vacciner, ils allaient tous mourir. La désinformation est devenue, je dirais, le fond de commerce de tous ces fossoyeurs de la démocratie, ces fossoyeurs de la vérité, de tous ces complotistes, c'est-à-dire ces gens qui veulent que la société marche, j'allais dire, la tête en bas et les pieds en l'air, si vous me passez l'expression.
Et par rapport à la sécurité?
Mais par rapport à la sécurité, les faits sont là. On oublie parfois que les groupes armés que nous combattons tous, les mêmes techniques de communication que vous et moi, ils lisent ce que vous publiez. Donc leur objectif, c'est de diviser. Que la jeunesse, la société civile, la police, les FADC, la MONUSCO, l'État, vous les médias, que vous ne fassiez plus bloc contre eux. Ils se gargarisent quand ils voient cette désinformation. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est eux, ces groupes armés, qui créent ce qu'on appelle des robots, des comptes fictifs pour salir une institution telle que la MONUSCO ou même les FADC.
Exactement, par rapport à ça, est-ce que la MONUSCO et l'État congolais sont victimes de la désinformation?
Mais c'est tous les jours. Imaginez des mamans qui sont au marché, ou des motards, des gens qui n'ont pas accès à la vraie information, et qui peut-être ont été touchés dans leur chair, et qui ont perdu leurs parents, leurs familiers, à cause des atrocités de tel ou tel groupe armé, et qui tombent sur un message comme celui-là, la MONUSCO fait ceci, ou bien les FARDC coalisent avec, je ne vais pas faire la publicité de cette rébellion-là, ou de ces groupes armés. Vous imaginez ce que ça peut avoir comme conséquence au niveau de la cohésion sociale. Il y a la démoralisation. Démoralisation même de ceux-là qui sont au fond. Il y a le tissu social qui se retrouve, j'allais dire, déchiré. Les gens ne font plus confiance aux forces de défense et de sécurité. À qui vont-ils faire confiance? Aux groupes armés qui les tuent? Donc ces gens qui pratiquent la désinformation, ils savent pourquoi ils le font. La désinformation, la manipulation de l'opinion, elle est pernicieuse, elle est mortelle, elle est destructive, et elle est nuisible. Elle sape les efforts des États en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de construction de l'unité nationale et même de lutte contre l'insécurité ou les groupes armés.
Alors, comment lutter contre la désinformation et les discours de haine?
Ça passe par plusieurs choses, plusieurs leviers. Le premier levier, c'est la sensibilisation. Je me dis peut-être qu'il faudrait que dans des programmes scolaires, on inclue des cours sur les dangers de la désinformation dès l'école primaire ou dès le secondaire, je ne sais pas. Il faudrait que les États y réfléchissent. Il faut sensibiliser au niveau de la communauté, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut que dans des bureaux, dans des écoles, on organise ces sensibilisations, même si c'est pendant 30 minutes. Beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur des dangers de la désinformation. C'est maintenant, on dit demain se prépare aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut préparer les armes. Les armes, ça s'appelle la sensibilisation communautaire. Les médias, qu'ils soient publics ou privés, doivent aussi jouer leur rôle. Il faut créer des émissions, des débats, pour montrer aux gens comment démonter un cas de désinformation. Et il y a d'autres leviers sur lesquels il faudrait jouer, notamment celui de la répression. Vous êtes coupable de désinformation ou d'incitation au discours de haine, eh bien, il faut qu'on vous frappe d'une amende exorbitante. Il ne faudrait pas que les gens pensent que le fait de lutter contre la désinformation est une entrave à la liberté d'expression.
Jean-Toubi Okala, merci.
Je vous en prie.
Voilà, c'était le responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO à Beni, Butembo et Lubero au Nord Kivu. Jean-Toubi Okala répondait aux questions de Martial Papi Mukeba. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.